Il est 1h.
Phare FM.
C'est Phare FM qui vous accompagne dans la nuit autrement jusqu'à 5h.
Phare FM.
La Bible dit:
restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Me freedom. I'm riding all the way home. Freedom. I can feel the wind in my soul. Freedom. It's a fire all up in my bones. Freedom.
Justice. caravane. Mais nous partons, allez, viens. Allez, viens. Bientôt mes os sont dans le vent. Je suis né dans cette caravane. Et nous partons, allez, viens.
La chanson Caravane sur Phare FM, 1h06, et on est toujours ensemble jusqu'à 5h d'ailleurs. J'espère que ça va pour vous. Il sera question de changement dans notre prochain rendez-vous, Pain de vie, et ce sera Bertrand Huetz qui nous parlera de changer d'attitude. La musique, c'est tout de suite Imagine Dragons Waves, et maintenant Jimmy Needham, Just a Heartbeat. J'espère que vous allez bien. Très bonne nuit à l'écoute de Phare FM.
Minuit 5h, la nuit autrement
avec Mireille.
With a word, you made the stars. Spoken boom, the moon. So who can say that there's no way? It's obvious you're far from done, and the best is yet to come. Anything is possible with you. You can do a lot with just a heartbeat. Give it 2 feet and suddenly you got me. Speaking to me and put my mouth on repeat. Do, 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 do. So it is with me, oh my. Half the time I forget that I should trust in you. Nothing else will.
at a job, she's feeling it out. And for once, it feels right. She's feeling like the prime of her life. But all of that is just a dream, shattered now. And everything's changed with one card and one night. It's driving through the prime of your life. Took your freedom. There's no reason. Just keep breathing. Time doesn't hear if you ask it to wait. La 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 la. Own all your tears and just roll with the waves. La 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 la. Life, it could change, it could change in a day. La 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 la. Cherish your years and just roll with the waves. La 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 la. Time doesn't hear, so roll with the waves. 11 years old, my only friend, you're taking me in, but where was I? Well, he took his life. Oh, I was singing in the prime of my life. The future, I'd rather be here thinking about the now. 'Cause this breath could fade fast, and this day could be your last.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Bertrand Huetz.
Le titre de mon message, c'est « Change d'attitude ». Les premières fois où je suis venu dans ce lieu, il y a à peu près 15 ans de cela, très très impressionné par cette multitude de personnes qui ici présentes, eh bien, levaient les mains vers le ciel pour louer le Seigneur de tout son cœur. Au jour d'aujourd'hui, il y a autre chose qui m'impressionne. C'est les personnes qui ont la capacité, dans les moments difficiles, les temps d'épreuve qu'elles vivent, de rester à la fois confiantes dans le Seigneur et de rester également amoureux de l'Église et des frères et sœurs qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Mais les personnes qui m'impressionnent sont les personnes qui manifestent leur foi au travers de leur attitude dans les difficultés qu'elles rencontrent. Et j'aimerais traiter deux attitudes, à savoir rester confiante en Dieu et aimer les frères et sœurs malgré les difficultés. Amen. Évidemment, Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Dans sa parole, il dit, eh bien, qu'étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Étroit et difficile et peu l'empreinte. Autrement dit, la promesse que Dieu nous a faite à nous tous n'est pas que notre vie en tant que chrétien serait facile, mais elle est en tout cas que dans les difficultés, il nous a promis d'être toujours avec nous, aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Et il y a deux exemples dans la parole de Dieu de personnages qui, pour moi, ont été à la fois, confiantes en Dieu dans les difficultés et à la fois également, fidèles à leurs frères et sœurs. La première personne, vous la connaissez tous, c'est celui en qui nous désirons tous ressembler, c'est Jésus. Jésus a été parfaitement fidèle à son Dieu. Et quelles que soient les difficultés que lui-même a vécues, il a toujours mis sa confiance en ce Dieu merveilleux qui était son papa. Et puis Jésus a parfaitement aimé son Église. Et au moment où son Église l'a le plus déçu, c'est-à-dire abandonné, alors qu'il était sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quel amour pour l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et puis la deuxième personne, j'en ai un peu parlé il y a un temps de cela, durant le temps de jeûne. J'aimerais essayer de vous la faire découvrir. Le nom de cette personne veut dire « il ajoutera ». Il y a 13 chapitres qui nous parlent de cette personne dans la parole de Dieu. Plus que pour Élie, plus que pour Élisée, plus même que pour Abraham, qui pourtant était le père de la foi. Mon personnage, n'a jamais prophétisé, ni même jamais écrit de livre de la parole de Dieu. Et je vous donnerai un élément peut-être essentiel qui vous aidera à trouver. Sa spécialité à lui, c'est que cet homme était un songeur et un spécialiste de l'interprétation des songes et des rêves. Il s'agit de Joseph. Oui, il s'agit de Joseph. Et lorsque j'étudie la vie de Joseph, dont 13 chapitres racontent son histoire, je me dis que finalement, Joseph est un homme à lequel de tout cœur j'aimerais ressembler. Pour deux raisons au moins. La première, c'est que Joseph a su rester fidèle à Dieu, a su lui faire confiance même dans les temps et les moments d'épreuve qu'il a vécu. Son attitude de cœur vis-à-vis de Dieu face aux épreuves que Joseph vivait a été une attitude qui a démontré la foi qu'avait Joseph envers son Dieu. Et puis la deuxième attitude qu'avait Joseph, c'est qu'il a su rester amoureux de sa famille et en l'occurrence de ses frères qui l'ont trahi malgré les difficultés qu'il vivait. Et en cela, je voudrais de tout mon cœur ressembler à ce personnage qu'est Joseph. Voyez-vous, je pense que Dieu nous permettra de passer dans notre vie différentes épreuves pour tester notre foi. Et je pense que la meilleure manière que Dieu a pour tester notre foi et regarder où nous en sommes en rapport avec notre attitude de foi, c'est de permettre dans notre vie différentes épreuves. Vous savez, quand tout va bien, il est facile de lever les mains au ciel et de dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore, je me réjouis de t'appartenir. » Et puis quand tout va bien avec les frères et sœurs, « Seigneur, qu'est-ce que j'aime l'Église ?» Mais voilà que vient l'épreuve produite, soit par Dieu, soit peut-être par notre propre attitude, et il devient alors plus dur de dire « Seigneur, je t'aime et j'aime ton Église. » Ou de dire « Seigneur, finalement, je crois que malgré l'épreuve, tu as permis cette épreuve afin que je puisse en sortir grandissant. » Mais c'est une telle attitude que Dieu désire voir au travers de nos vies. J'aimerais en particulier peut-être prendre une histoire que vous connaissez pour beaucoup très bien, qui se situe dans le livre de la Genèse au chapitre 44, et qui parle en particulier d'un des frères de Joseph qui s'appelait Judas. Genèse chapitre 44. Alors je vais vous résumer un peu le passage, tout en vous rappelant que, lorsque vous connaissez Judas, vous voyez que le cœur de Judas était un cœur tortueux. Genèse 44, 20 ans après, on voit combien Dieu a changé l'attitude de Judas et que parce que l'attitude de Judas a changé, cela va bouleverser non pas seulement un homme, mais également un peuple, le peuple d'Israël. Alors que Joseph était venu leur annoncer le songe qu'il avait eu, Judas et ses frères se sont mis en colère et voulaient dans un premier temps le tuer. Mais Judas a arrêté cela et a dit non, plutôt que de le tuer, jetons-le dans une citerne. Judas et ses frères l'ont vendu en tant qu'esclave aux Madianites et Joseph plus tard s'est retrouvé comme esclave de Potiphar. Judas a également, avec ses frères, menti à Jacob son père en lui faisant croire que finalement, Joseph a été dévoré par une bête féroce. Voilà le Judas que nous connaissons au début de l'histoire de Joseph. 20 ans plus tard, Genèse chapitre 44. Voyons voir ensemble, au travers du test de cette histoire dans la vie de Judas, combien, au travers des années, finalement, Dieu a tranquillement changé le cœur de Judas et utilisé Joseph pour voir, au travers de l'épreuve, quelle allait être l'attitude de Judas. Allait-il à présent faire confiance en Dieu ? Allait-il à présent aimer ses frères ? Je dirais plus que lui-même, nous le verrons dans Genèse chapitre 44. L'histoire nous dit ceci, le peuple d'Israël avec Judas, ses frères, y compris Benjamin dans le deuxième voyage, arrive dans le pays d'Égypte. Et voilà qu'ils cherchent de la nourriture auprès de Joseph, qui était leur frère, mais qu'ils n'avaient pas encore reconnu. Joseph leur donne des sacs de blé qu'ils emmènent, mais en même temps Joseph cache dans le sac de blé de Benjamin le plus jeune une coupe en argent. Voilà les frères partis avec leur sac de blé, et puis l'armée les retrouve et coupe les sacs et voit dans le sac de Benjamin la coupe en argent. Judas et ses frères accusés injustement d'un mal qu'ils n'avaient pas commis. Voyons la réaction de Judas face à l'épreuve qui est la suivante. Et face à ce test que lui fait faire Joseph, qui est à la fois un test que j'appellerais le test vertical, le test de sa relation, de sa confiance en Dieu malgré l'épreuve, et un test que j'appellerais le test horizontal, qui est le test de sa relation avec ses frères malgré la difficulté et l'épreuve. Voyons d'abord comment, Judas agit au travers du test vertical, sa relation et sa confiance avec Dieu dans l'épreuve. Dans Genèse chapitre 44 verset 16, il est dit, Joseph les accuse de les avoir volés et il dit ceci, que dirions-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Écoutez bien cette phrase. Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Judas a été accusé injustement de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Sa réaction n'a pas essayé de se justifier, mais sa réaction a été de dire « Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Fais maintenant de nous ce que tu voudras. » Autrement dit, Dieu, toi qui as permis cette situation, je mets maintenant toute ma confiance en toi. Face à l'épreuve, quelle est notre réaction? Face aux difficultés que nous rencontrons, mettons-nous notre confiance en celui qui finalement est capable de changer le mal en bien et de produire le meilleur du pire que nous pouvons vivre? Est-ce que nous mettons notre confiance en celui de qui il est dit dans Romains chapitre 8 verset 28 « Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu ». Quelle est notre attitude vis-à-vis de la difficulté de l'épreuve? J'aime beaucoup l'histoire dans Actes 16 de Paul et de Silas qui ont été enfermés en prison. Silas aurait pu se plaindre, il aurait pu en vouloir à Paul. En lui disant, mais Paul, finalement, si on est en prison, c'est ta faute parce que tu n'avais qu'à pas chasser l'esprit Python qui était dans la femme, la servante. Silas aurait pu en vouloir à Dieu et dire, mais finalement, Seigneur, nous t'avons servi et voilà la récompense que nous méritons. Nous sommes en prison, nous avons été battus, nous sommes dans les chaînes. Silas avait toutes les raisons d'en vouloir à tout le monde et au monde entier. Mais voilà ce que la Bible nous dit vers le milieu de la nuit. Paul et Silas se mirent à prier et à louer le Seigneur. Amen. Et savez-vous ce qui s'est passé lorsqu'ils ont eu une attitude de confiance en Dieu, une relation de vainqueur avec Dieu dans l'épreuve qu'ils vivaient? Il est dit que la terre se mit à trembler. Et le résultat de la terre qui s'est mise à trembler, c'est que les chaînes sont tombées, les portes de la prison se sont ouvertes, le geôlier et sa famille se sont convertis et s'est créé plus tard une église, l'église de Thessalonique. Amen. Est-ce que nous voulons, par notre attitude, permettre à Dieu, dans des situations qui nous semblent inextricables, de créer des tremblements de terre dans notre vie? Moi, je crois que si nous avons une attitude qui fait confiance à Dieu dans l'épreuve et la difficulté, eh bien Dieu va nous permettre de vivre des tremblements de terre dans notre vie. Et moi, je veux pas être un chrétien intimidé par l'épreuve, mais je dis souvent, Seigneur, aide-moi à ne pas être intimidé par l'épreuve, mais quand l'épreuve est là, aide-moi à regarder à toi, à te faire confiance. Et je sais alors que là où il n'y a plus aucune solution humaine, toi, tu as la capacité de créer des tremblements de terre. Tu as la capacité de faire trembler les situations, même les plus difficiles, afin de nous rendre, en tant que tes enfants, vainqueurs en toutes choses. Quand on a l'assurance qu'il nous aime plus que tout, alors on ne peut que croire que quand il permet l'épreuve, c'est toujours pour notre bien. C'est toujours afin que nous en sortions vainqueurs. Amen. Dieu nous aime. Et quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, nous devons avoir l'assurance qu'il viendra nous chercher de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons pour nous emmener à une solution que lui a préparée d'avance. J'ai une histoire qui me revient à l'esprit, qui illustre ce texte sur lequel je m'appuie bien souvent, de Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'était un moine qui était poursuivi par un lion féroce. Et voilà qu'il court et se précipite et arrive devant un précipice qui était là devant lui. Et la providence voulait que devant ce précipice, il y avait une corde à laquelle il a pu s'agripper pour éviter le lion. Alors voilà qu'il s'agrippe à la corde, remerciant le Seigneur d'avoir permis qu'elle soit là. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque, regardant derrière lui, en dessous de lui, il voit là en bas des pics très pointus, sur lesquels, s'il descendait plus bas, il allait s'empaler. Manque de peau, entre le lion et le moine qui était sur sa corde, se trouvait une paire de souris qui était en train de ronger la corde. Si bien que finalement, ce pauvre homme n'avait plus aucune solution. Alors, essayant quand même d'en trouver une, il se balance à droite, à gauche, et que ne voit-il pas à sa droite, dans le rocher, un renfoncement dans lequel se trouvait un plant de fraises. Et sur ce plant de fraises poussaient de très belles fraises, très mûres, qui ne demandaient qu'à être mangées. Et le moine, dans la situation dans laquelle il se trouvait, se dit finalement, il prend ses fraises, commence à les manger et dit « Seigneur, je te remercie pour la situation dans laquelle je me trouve ». Parce que si tu n'avais pas permis cette situation, je n'aurais pas pu goûter les bonnes fraises que tu as mis devant mes yeux. Alors, je ne sais évidemment pas quelle est la fraise que Dieu veut vous faire découvrir. Mais dans l'épreuve, si vous faites confiance en Dieu, si vous mettez toute votre confiance en lui, alors assurément, eh bien, Dieu utilisera l'épreuve pour vous permettre de vivre de grandes choses. Judas a été transformé sur toutes ces années par le Seigneur qui lui a permis de compter non pas sur ses propres désirs, mais de compter sur la volonté de Dieu et ce que Dieu voulait faire. Deuxième épreuve, celle que j'ai appelée l'épreuve horizontale, c'est-à-dire l'épreuve de notre relation avec les frères et sœurs. Souvent j'entends des remarques telles, finalement je ne viens plus à l'église parce que j'ai été déçu par tel ou par tel. J'aimerais me demander, aime-t-il réellement Dieu ? Parce que celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, doit aimer ses frères et donc avoir le désir de venir louer le Seigneur dans l'Église, fût-elle imparfaite ? Et j'aimerais nous encourager à progresser également dans la relation que nous avons les uns avec les autres. Aimer notre prochain. Regardez l'attitude de Judas face à l'épreuve. Nous avions dit tout à l'heure qu'il n'essayait pas, vis-à-vis de l'épreuve, de se disculper. Mais voyez ce qu'il dira également dans Genèse chapitre 44, versets 33 et 34. Il dira là, « Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur. Et que l'enfant remonte avec ses frères, comment pourrais-je, dit Judas, remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi ? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. » Vous avez écouté là l'attitude de Judas, qui 20 ans auparavant avait menti à son père Jacob, disant que Joseph avait été dévoré. 20 ans plus tard, Judas est prêt à substituer sa propre vie, à donner sa propre vie en échange de Benjamin et de ses frères. Dieu, durant ces 20 années, avait fait un travail dans son cœur. si bien que Judas était maintenant prêt à donner jusqu'à sa propre vie. Dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 13, verset 34, il est dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Et regardez bien jusqu'à où Dieu place la barre de l'amour des uns avec les autres. Il dira « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et puis le verset suivant, il est dit « À ceux-ci tous verront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Pour moi, la meilleure des méthodes d'évangélisation aujourd'hui, c'est nous aimer les uns les autres. On peut distribuer plein de traités, faire beaucoup d'affichages, faire tout ce que l'on veut, mais la meilleure méthode d'évangélisation aujourd'hui, c'est que ceux du dehors voient l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et lorsque Dieu parle de cet amour, il met la barre très très haute. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Lévitiques, au chapitre 19, il dira « Aime ton prochain comme toi-même ». On peut le lire ensemble, Lévitique, chapitre 19, versets 16 et 18, il est dit « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. » Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Et il est dit là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Aimer son prochain comme toi-même, c'est le commandement de Lévitique. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu met la barre plus haut. Il dit, aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Et moi j'ai l'impression quand je regarde à la croix que Jésus nous a aimés plus qu'il s'est aimé lui-même. La preuve en est qu'il a donné sa propre vie pour nous. Il est mort à son moi, afin que par sa mort, nous recevions la vie. Et lorsque Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme lui nous a aimés, il nous demande finalement de mourir à nous-mêmes. Quand un frère dit quelque chose qui ne nous plaît pas, finalement il est fautif d'avoir peut-être dit quelque chose qui n'était pas gentil, mais nous sommes tout autant fautifs d'avoir reçu ce qu'il a dit et d'être vexés par ce qu'il a dit. Parce que si nous sommes morts à nous-mêmes, nous ne réagissons plus. Est-ce que vous avez déjà vu un mort réagir? Mais un mort ne réagit pas. Et lorsque nous venons à la croix et que nous aimons comme Jésus a aimé, eh bien, nous devons mourir comme lui est mort. Mourir à nous-mêmes. Et si nous sommes morts à nous-mêmes, eh bien, nous pouvons dire, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Parce qu'elle n'est pas seulement là pour me racheter de mes péchés, elle n'est pas seulement là pour me guérir, pour me libérer, pour intervenir dans ma vie, mais elle est également là pour me permettre d'aimer l'Église comme toi tu as aimé l'Église. Amen. Et cet amour parfait, nous le trouvons dans la Trinité. Le Père a parfaitement aimé le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils a parfaitement aimé le Père et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a parfaitement aimé le Père et le Fils. Et vous savez pourquoi? Eh bien, on peut les appeler la triunité trois en un, parce qu'il y avait au milieu d'eux un amour qui était parfait. Le Père plus le Fils plus l'amour égale un. Le Père plus le Fils plus le Saint-Esprit plus l'amour divin égale un. Ils ne font qu'un parce qu'ils s'aimaient l'un et l'autre. Et si nous ne faisons qu'un, parce que nous y rajoutons l'amour divin, eh bien, nous serons alors cette Église que le Seigneur cherchera un jour. Amen. Je lisais l'autre jour un article que je trouvais assez marrant dans l'image qu'il donnait de l'amour. Il parlait de l'amour façon purée pomme de terre. Voyez-vous, lorsque la pomme de terre pousse, eh bien, vous voyez qu'il y a plusieurs plans pour ceux qui sont paysans et qui font pousser les pommes de terre. Et sur chaque plan de pomme de terre, il y a 5-6 pommes de terre. Mais elles sont toutes séparées les unes des autres. La prochaine étape pour le paysan, c'est de cueillir les pommes de terre dans les différents plants qui sont là et de les mettre toutes dans un même sac. Mais ce n'est pas encore la communion telle que Dieu la conçoit. L'étape suivante, eh bien, les pommes de terre sont épluchées et coupées en lamelles. C'est ce que j'appellerais pour nous, peuple de Dieu, la sanctification, hein. Il faut des fois que Dieu épluche notre ancienne nature et coupe ce qui doit être coupé de manière à ce que nous puissions avoir encore les uns avec les autres une relation encore plus étroite. Mais ce n'est pas terminé. Pour que les pommes de terre épluchées, coupées, deviennent purées, eh bien, il faut évidemment les broyer, les écraser, après les avoir cuites, bien sûr, de manière à ce qu'elles deviennent de la purée. Et là, dans la purée, eh bien, aucune pomme de terre ne peut dire « c'est grâce à moi que la purée est bonne ». Aucune pomme de terre ne peut venir du fond de la purée et dire « bien finalement, c'est parce que je suis la meilleure des pommes de terre que la purée de la ménagère a réussi ». Mais c'est parce que les pommes de terre mises et broyées les unes avec les autres et se mélangeant les unes avec les autres ne font qu'un. C'est pour cela que la purée peut être bonne. Mais je dirais, eh bien, c'est ça l'amour pomme de terre. Soyons tellement unis les uns aux autres, désirant ensemble servir le Seigneur, que nous ne soyons alors qu'un, ne nous vantons pas de ce que nous pouvons faire, mais rendons gloire à Dieu de tout ce qui nous donne la capacité de faire les uns avec les autres. Je pense que ce n'est pas toujours facile pour Dieu de nous aimer. Vous savez, lorsque je m'analyse au travers de la parole de Dieu, je me dis, Seigneur, honnêtement, tu es rempli d'amour. Hein? Et puis je pense que pour Jésus, ce n'est pas forcément non plus toujours facile de nous aimer. Mais quand même, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et quand je pense au Saint-Esprit, je me dis, Saint-Esprit, honnêtement, j'imagine que pour toi, ça ne doit pas toujours être facile d'habiter dans le temple que je suis, dans lequel tu veux résider pleinement. Et souvent, lorsque je m'analyse à la lumière de ce que dit la parole de Dieu et que j'analyse mon comportement face à des épreuves que je vis, je me dis, Saint-Esprit, je suis plus souvent, plus près de t'attrister et de te donner peut-être envie de te retirer de moi plutôt que de réjouir ton cœur et te donner encore plus l'envie de vivre en moi. Mais changeons d'attitude. Ayons l'attitude de Judas, qui fait à la fois confiance en Dieu dans l'épreuve, mais qui lui permet également d'aimer ses frères au point où il a été capable de se substituer avec eux et de donner sa propre vie pour eux. J'aimerais simplement vous citer quelques exemples de manifestations de l'amour fraternel que j'ai noté là. Tu dis que tu aimes ton frère. Es-tu prêt à couvrir ses erreurs plutôt qu'à les mettre en avant pour montrer aux autres que finalement tu es meilleur qu'eux? Lorsque nous lisons l'histoire de Judas, Judas aurait très bien pu penser que Benjamin avait volé la coupe en argent. Pourtant, il l'a couvert et il a voulu prendre sa place. Sommes-nous prêts à couvrir nos frères et nos sœurs? Es-tu prêt à être attentif aux besoins de tes frères et sœurs? Es-tu prêt, lorsque tu leur dis « Comment vas-tu, cher frère ?», à écouter la réponse qu'ils te donnent? Vous savez, souvent, on croise des frères et des sœurs, on leur dit « Frère, comment vas-tu ?». Et puis avant même qu'ils n'aient eu le temps de répondre qu'il va bien ou qu'il ne va pas bien, déjà on est très loin. On est même inaccessible. Impossible alors de répondre à leurs besoins. Il vaudrait peut-être mieux dire moins souvent « Comment vas-tu ?» à moins de frères et à moins de sœurs. Mais dire « Seigneur, dorénavant, ceux à qui je vais demander comment tu vas, eh bien je vais rester à côté d'eux jusqu'à ce qu'ils me répondent. » Et quand ils m'ont dit « Non, je ne vais pas bien », ou alors des fois vous avez des réponses de Normand, hein, « Oui, je vais bien par la grâce. » Mais êtes-vous prêt à rester près de la personne à qui vous dites « Comment vas-tu ?» et à l'aider dans les problèmes et les difficultés qu'elle rencontre? La communion fraternelle n'est pas plus compliquée que cela. Finalement, c'est s'occuper les uns des autres. Finalement, c'est savoir écouter la souffrance des uns et des autres, mais savoir également être un acteur dans la solution que Dieu a préparée pour lui, mais qu'il n'a peut-être pas la capacité de recevoir dans la douleur et la souffrance qu'il vit. Alors aidons-le dans la souffrance qu'il vit à être un acteur que Dieu va utiliser pour que cette personne qui ne va pas bien puisse sortir de cette situation et finalement voir qu'elle a été permise par Dieu pour des choses plus grandes. Soyons capables de faire cela. Tu aimes le frère qui garde le parking, ou le frère et la sœur qui font les écoles du dimanche, ou qui sont engagés pour le ménage ou à la bourse des vêtements. Eh bien, prends peut-être le temps non seulement de prier pour eux et de considérer le travail qu'ils font, mais engage-toi dans l'une de ces œuvres, pour permettre aux différents frères et sœurs qui y sont engagés d'avoir un roulement qui est peut-être plus large, de manière à ce que, comme vous, ils puissent être assis là et écouter ce que le Seigneur veut dire. Aimer son prochain, c'est également savoir prendre des engagements. J'ai noté également ceci. Est-ce que vous téléphonez de temps en temps aux uns et aux autres, non pas forcément uniquement pour partager vos soucis ou vos problèmes, mais simplement pour leur dire, frère, aujourd'hui je te bénis. Je te téléphone juste pour te dire que je t'aime et que je veux te bénir de la part du Seigneur. L'amour fraternel n'est fait finalement que de gestes aussi concrets que celui-ci. Et je crois qu'à partir du moment où nous disons, Seigneur, j'aime l'Église, j'aime mon frère et ma sœur, eh bien, de tout mon cœur, je veux leur dire que je les aime. Êtes-vous prêt à inviter des gens que vous n'avez pas l'habitude d'inviter? Et peut-être que vous allez simplement comprendre ou réaliser dans ce temps de communion fraternelle que finalement, si la sœur était comme ça, c'est parce qu'elle-même vivait des souffrances. Soyons prêts à montrer de manière très concrète la manière dont nous nous aimons les uns les autres. Je terminerai en disant que Jésus, lui, a parfaitement passé le test vertical et horizontal. Il nous l'a montré au travers de l'œuvre de la croix. Il a parfaitement fait confiance à son Père, même quand il vivait les moments les plus difficiles, en disant dans le jardin de Gethsémané, « Si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et puis, le test horizontal, il l'a passé parfaitement parce qu'il a donné sa vie pour l'Église qu'il aime. Amen. Et alors que nous étions pécheurs, il a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. Combien il nous a aimés. Et combien, quand nous considérons cet amour, avons-nous envie de le suivre et de nous laisser remplir de lui de manière à avoir le même amour que lui a eu envers nous. Et enfin, je dirais, voilà ce qui s'est passé pour Judas lorsqu'il a à la fois, au bout de 20 années, été transformé par Dieu. Il a démontré dans son attitude, en faisant confiance à Dieu et en aimant ses frères. Voilà ce qui s'est passé, il est dit dans Genèse chapitre 45, versets 1 et 2. Joseph, son frère, ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Deux choses se sont passées lorsque Joseph a constaté que Judas avait changé d'attitude face à l'épreuve. Première chose, Joseph a pleuré. Et je crois qu'en fonction de nos attitudes, on peut faire pleurer ou le Saint-Esprit de tristesse ou le Saint-Esprit de joie. Et je crois qu'en fonction des attitudes que l'on a dans notre confiance à Dieu et notre relation avec les autres, eh bien oui, je peux le dire haut et fort, nous avons la capacité de réjouir le cœur du Père. Amen. Et le Saint-Esprit qui vit en nous. La deuxième chose qu'il s'est produite, Joseph a ôté son masque. Il a ôté son masque de dirigeant du peuple d'Égypte et il a permis à ses frères de découvrir son identité de frère. Et je crois que, eh bien, de la même manière, quand nous adoptons l'attitude qui a été celle de Judas, eh bien, Dieu ôte quelque part le masque d'un amour que nous ne connaissions jusqu'alors pas, mais qu'il nous révèle de manière plus profonde encore. Et peut-être dans notre relation avec les frères et sœurs, si notre attitude est juste, peut-être leur cœur s'ouvrira. Peut-être des masques de fausse attitude vont tomber et nous allons apprendre à mieux le connaître. Permettons à Dieu de se réjouir de nos attitudes. Permettons également aux frères et sœurs de se réjouir de notre relation avec eux. Alors ma question, c'est veux-tu changer d'attitude? Sachant que tu ne peux le faire que dans la mesure où tu acceptes celui Jésus-Christ qui seul peut te permettre de changer d'attitude. Mais dans la mesure où tu prends des décisions dans l'épreuve, de dire « Seigneur, je te fais confiance parce que je crois que de l'épreuve, tu peux produire quelque chose de meilleur. Seigneur, je te fais confiance parce que je crois que l'Église dans laquelle tu m'as placé est constituée de frères et sœurs que tu aimes et que je veux aimer comme toi tu les as aimés. » Amen. Si nous avons cette attitude-là, eh bien oui, nous réjouirons le cœur du Père et de manière plus profonde encore, il se révélera à chacun d'entre nous.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Par FM, la radio autrement.
Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie, c'est à sillonner les années et tant pis. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs
il en faudra.
L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça.
Les avis, j'encaisse. J'ai à sillonner les échecs. Et tant pis si je perds sur la route de mes rêves. Des amis qui durent et je croyais pour la vie. Si tu l'aimes, autant lui dire et le reste attendra. Je croyais que l'avenir ne se finissait pas. Je vais courir et ça ira.
L'espace est là.
Fort, Julien Granel sur Phare FM, Brandon Lake maintenant avec Nothing New, suivi de Andrew Bell et la chanson Pieces, toujours sur la radio Autrement. Merci de rester avec moi.
Like all the songs have probably all been sung, but I wanna bring you something true, something that moves you. I don't have all the words to tell you how much you're worth, but I wanna bring you something. Something that moves you from the dawn to the dark.
ourselves a problem. I can see it's better than a sovereign. I believe I found a way around it. I will leave, it's better than I found it. There's too much smoke to see it. There's too much broke to feel this. Oh, I love you, and all of your pieces. There's too much smoke to see it. There's too much broke to feel this. Oh, I love you, and all of your pieces. History, a ladder made of scarlet. Victories look better when you've called it. Misery is the moment when I lost you. It's pleasure in a costume. It's more than what it cost you. There's too much smoke to see it. There's too much broken to feel this. Oh, I love you, and all of your pieces. There's too much smoke.
De famille.
L'amour, c'est plus que simplement du sexe. L'amour, c'est plus qu'une relation physique. C'est aussi une relation affective. L'homme qui ignore les besoins affectifs de son épouse et espère une récompense sensuelle au lit laisse une porte ouverte à la frustration dans son couple. Les femmes ne sont pas des machines qui marchent sur commande. Un jour, quelqu'un me disait que le sexe commence à la cuisine à 6 heures et non à 9 heures dans la chambre à coucher. Une relation physique durable est le résultat d'une relation affective saine et de longue haleine. Les deux partenaires ont des besoins affectifs qui doivent être satisfaits en dehors de la chambre à coucher afin de connaître les vrais plaisirs de l'amour physique. La plupart d'entre nous ont davantage besoin de compagnie, de se sentir valorisés, d'être admirés et d'être aimés simplement pour ce qu'ils sont. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas?
Retrouvez Affaires de famille en podcast sur farfm.com.
Star FM, ma radio.
We gonna ride, 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 ride till we fall. They say we got no, 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 no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, 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 ride till we fall. When we hit the bottom. what they don't know, no, 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 is we don't get. We're going keeping on going till we can't go no more. We're gonna ride.